Il faut s'imaginer l'analyse d'un contrat juridique, mais avec des enjeux littéralement cosmiques.
Ouais, le genre de document où l'emplacement d'une simple virgule change tout.
C'est ça. Ou même la nuance de traduction d'un seul verbe, tu vois. Ça a le pouvoir de modifier radicalement la compréhension de la structure même de l'univers.
Rien que ça. Le point de départ de la réalité, quoi.
Absolument. Et du coup, notre plongée d'aujourd'hui, c'est sur les fondements conceptuels du tout premier chapitre du livre de la Genèse. On se base sur les notes très exhaustives, d'ailleurs, de la 5e conférence d'histoire de l'Ancien Testament, donnée par l'érudit Robert Vanois.
Et il faut bien préciser d'emblée, l'idée, c'est absolument pas de faire de la théologie dogmatique ici.
Non, pas du tout.
L'objectif, c'est vraiment d'explorer la mécanique pure de ce texte antique. On veut voir comment il a bâti une vision du monde totalement inédite pour son époque.
Et comment une simple subtilité syntaxique autour d'un seul mot hébreu a pu fracturer l'histoire des traductions. C'est fou de se dire que ça a engendré des univers conceptuels diamétralement opposés.
Ouais, c'est fascinant. Mais pour analyser cette mécanique, il faut d'abord isoler le texte de toutes les couches de tradition qui s'y sont accumulées au fil des siècles.
On revient à la source brute.
Exactement. Notre approche est purement textuelle et historique. On regarde sous le capot, en fait, pour comprendre ce que le document affirme factuellement et surtout pourquoi sa structure grammaticale rend les spécialistes fous depuis des millénaires.
Ça promet.
L'idée, c'est vraiment de disséquer la logique interne du récit, indépendamment de toute croyance, juste pour observer comment l'auteur a posé les fondations de son architecture narrative.
Le point de départ le plus logique, avant même d'aborder les anomalies grammaticales de la première phrase, ce serait d'examiner les forces en présence.
Ouais, planter le décor.
Voilà. Quiconque ouvre Genèse 1 se retrouve immédiatement face à un décor et un acteur principal, le créateur et sa création. En lisant l'analyse de Vanois, je suis vraiment frappée par l'isolement total de cette figure divine.
C'est vrai que ça tranche avec le reste du Proche-Orient ancien.
Totalement. Contrairement au mythe fondateur des civilisations voisines, il n'y a aucune généalogie, aucune naissance cosmique.
Pas de dieux qui s'entretuent pour créer le monde, ouais.
C'est ça. Aucune guerre entre divinités pour établir un ordre. Le texte présuppose l'existence de Dieu avec une brutalité presque provocatrice pour l'Antiquité, quoi.
Et cette brutalité narrative, c'est précisément ce qui marque une rupture radicale avec le contexte culturel de l'époque. Le monothéisme qui est affirmé ici ne prend même pas la peine de se justifier.
Il est juste là.
Voilà. Et ce Dieu opère par omnipotence. On a cette répétition rythmique, tu sais, la formule « et Dieu dit ». Ça démontre une création par la simple volonté exprimée.
Ce qui est d'ailleurs repris plus tard, le texte d'Hébreux, chapitre 11, verset 3, le confirme, non ?
Ouais, tout à fait. Hébreux 11.3 est souvent cité en écho pour confirmer cette idée d'un univers formé à la commande. Mais l'élément central que soulève la source, c'est l'étanchéité absolue de la frontière entre Dieu et la matière.
Donc un rejet catégorique du panthéisme.
Absolument.
Pour ceux qui s'intéressent à ces concepts, le panthéisme, c'est l'idée selon laquelle l'univers, la nature et la divinité fusionneraient pour ne former qu'une seule entité organique. Tout est Dieu, en gros.
Et le texte s'oppose frontalement à ça. Le livre « The God Who Acts » de G. Ernst Wright, qui est cité dans notre documentation, l'exprime très clairement.
Qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Il explique que ce Dieu transcende totalement la nature et l'histoire. Il n'est pas une force immanente, tu vois. Il n'est pas captif d'un processus naturel. Conceptuellement, ça désintègre la base entière des religions païennes contemporaines de l'Israël antique.
Ah ouais, c'est pas le Dieu qui habite dans la montagne d'à côté, quoi.
Non, ni une divinité qui se manifeste par la foudre ou le cycle des moissons. Il est sui generis, d'une nature fondamentalement différente de la réalité physique.
Et par voie de conséquence, l'univers physique décrit dans le texte, il n'est ni divin, ni doté d'une existence éternelle.
C'est exactement ça. Il est le produit d'un processus ordonné en 6 jours. Et surtout, il est qualifié de « bon ».
Ce qui n'était pas évident à l'époque.
Non, ça s'oppose à de nombreuses philosophies antiques, genre le gnosticisme plus tard, qui percevait la matière physique comme intrinsèquement corrompue ou mauvaise.
Tu sais, ça me fait penser à une analogie. On pourrait comparer ça à un programmeur informatique et une simulation en réalité virtuelle.
Oh, j'aime bien l'idée. Vas-y.
Le développeur tape des lignes de code, c'est l'équivalent du Dieu dit. Et un monde entier se matérialise sur les serveurs. Ce monde virtuel a ses règles, sa physique, sa propre réalité.
Mais le programmeur n'est pas dans le serveur.
Voilà. Il n'est pas fait de pixels ou de code binaire. Il existe en dehors, dans une autre dimension matérielle. Ce qui soulève un point majeur concernant l'expérience humaine, de l'époque antique d'ailleurs.
sur leur rapport à la nature.
Ouais. Si la nature n'est plus divine, si la rivière c'est plus un dieu capricieux qu'il faut apaiser avec des sacrifices, et si le soleil n'est qu'un un vulgaire luminaire programmé pour marquer le temps, bah ça désacralise entièrement l'environnement.
C'est un changement de paradigme complet. L'humanité n'est plus terrifiée par une nature animée d'intentions divines ou malveillantes.
Et cette désacralisation, c'est vraiment la clé de voûte pour comprendre le rôle de l'humanité dans ce récit, non ?
Totalement. L'univers devient un objet géré, un espace physique ordonné, plutôt qu'un panthéon rempli d'esprit. Et puisque la scène est préparée, le texte se dirige vers son point culminant au sixième jour.
L'arrivée de l'être humain.
C'est ça. Selon l'analyse de Vanoy sur Genèse 1 et 2, l'homme est défini comme une créature, absolument pas divine, hein, mais qui porte un statut unique. Il possède l'image de Dieu.
Et il faut bien préciser l'image de Dieu dans ce contexte précis. Ça n'a rien à voir avec une ressemblance physique. C'est pas une question d'avoir deux bras et deux jambes.
Non, pas du tout. La source précise que cela dote l'humain d'une nature spirituelle, rationnelle et morale. C'est vraiment cette combinaison qui le sépare du reste du règne animal. Et c'est en vertu de cette rationalité que l'humanité reçoit l'autorité sur la création. Le texte parle de dominer sur le règne animal et de soumettre la terre.
Alors justement, ce terme « soumettre la terre », ça fait souvent grincer des dents aujourd'hui.
Ouais, on peut comprendre pourquoi.
Bah, on pourrait facilement l'interpréter comme un permis d'exploitation à ciel ouvert, quoi. Une domination brutale. Si l'univers est cette simulation parfaite, qualifiée de bonne à de multiples reprises, lui ordonner de la soumettre, ça semble presque inviter à saccager le chef-d'œuvre.
C'est le grand reproche écologique moderne, ouais.
Du coup, comment ce mandat d'autorité s'articule-t-il avec l'idée d'un monde originellement parfait ?
Bah, en fait, il faut relier ce vocabulaire à la nature même de cette fameuse image divine. Le texte établit un principe d'autorité déléguée.
Déléguée, c'est-à-dire ?
L'humanité ne possède pas la terre. Elle en est seulement le gestionnaire. Puisque le créateur est présenté comme rationnel et moral, ordonnant le chaos pour en faire un espace harmonieux, bah, l'être humain a pour mandat de refléter cette même gestion rationnelle.
Ah, donc on est censé agir comme lui ?
Exactement. Exercer une tyrannie destructrice sur la nature, ça équivaudrait à briser l'image de ce dieu ordonnateur. C'est vraiment un concept de gérance cosmique, de gardiennage, pas de destruction.
Ok, je vois. Et c'est là que notre intrigue se complexifie sérieusement. Parce que pour comprendre l'origine de cette gérance et de ce créateur transcendant, il faut revenir à la ligne de départ.
La fameuse première phrase.
La toute première phrase du texte saint. On pourrait se dire que l'ouverture d'un livre si fondateur, ça serait simple, limpide.
Tu parles ?
Depuis des siècles.
Ouais, on parle de la célèbre ouverture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Une phrase iconique, quoi.
Une déclaration d'une puissance littéraire inouïe. Et qui n'a d'ailleurs aucun parallèle dans les textes mésopotamiens ou égyptiens contemporains. Mais le débat technique, le débat féroce même, se concentre sur le tout premier mot du manuscrit hébreu, le mot « Bereshit ».
Alors, entrons un peu dans la mécanique linguistique si tu veux bien. Pourquoi un seul mot déclenche-t-il une telle guerre d'interprétation ?
Parce que la syntaxe hébraïque ancienne permet de lire ce mot de deux manières totalement différentes. Soit à l'état absolu, soit à l'état construit.
D'accord. Et concrètement, ça change quoi pour nous ?
Bah, pour schématiser, l'état absolu crée une clause indépendante. Une affirmation complète qui se suffit à elle-même. La traduction classique, ça donne donc « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ».
Avec un point final.
Avec un point final. C'est une fondation solide, l'événement est clos, la phrase est terminée. Mais, en revanche, si la grammaire est lue à l'état construit, le mot devient une clause subordonnée, temporelle.
Ce qui transforme l'affirmation en une condition, en fait. Une phrase qui attend une résolution.
Précisément. La phrase devient « quand Dieu commença à créer les cieux et la terre », et du coup, le texte est obligé de s'accrocher au verset suivant pour trouver son sens. Le paysage narratif change complètement.
Ah oui, l'acte de création n'est plus du tout une déclaration fondatrice, isolée. C'est un processus déjà enclenché alors que la terre est plongée dans le chaos.
C'est un peu comme si t'arrivais en retard au cinéma.
Mais grave, hein ? C'est comme commencer un film d'action in medias res, tu vois. Au lieu du grand écran noir avec le titre majestueux « La création de l'univers », on est plongé direct au milieu de l'action. Pendant que Dieu organisait le chantier au milieu des ténèbres et de la flotte, paf, il lança la lumière.
Ouais, la perspective est très différente, c'est clair.
Mais si l'hébreu original permet vraiment les deux lectures, comment les traducteurs font pour trancher ?
Eh bien, le poids de l'histoire textuelle penche quand même lourdement d'un côté. Dans son analyse, Vanoy souligne le rôle des massorètes.
Les fameux scribes juifs.
C'est ça, ces érudits du Moyen-Âge qui ont ajouté les voyelles et les accents de ponctuation au texte consonantique brut. Autour de l'an 1000, ils ont placé un accent disjonctif sous le mot bereshit.
Un accent disjonctif, ça veut dire une pause, c'est ça?
Oui, ça dicte une pause forte. Ça confirme qu'il comprenait ce mot comme un état absolu, donc une phrase indépendante. Et plus loin encore dans le temps, la Septante, la célèbre traduction grecque du 3e siècle avant notre ère, a opté sans la moindre ambiguïté pour la clause indépendante.
Ok, mais alors attends, si les érudits qui maîtrisaient l'hébreu ancien et les plus anciennes traductions historiques s'accordent toutes sur la phrase indépendante, pourquoi des comités de traduction modernes imposent cette clause subordonnée ?
Tu penses à quelle version ?
Bah, genre la RSV, la Revised Standard Version en anglais, ou la New English Bible. Il doit bien y avoir une raison linguistique, on ne modifie pas le premier verset de la Genèse juste pour le fun, quoi.
Non, bien sûr ! Ces traducteurs modernes sont très souvent influencés par les découvertes littéraires du Proche-Orient ancien. Beaucoup de mythes de création babylonien, comme le Numa Elish, commencent par des clauses temporelles subordonnées.
Du genre « lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas encore nobés ».
Voilà, exactement. Il y a donc une tentation académique d'aligner la syntaxe de Genèse 1 sur celle de son environnement culturel. Mais le problème massif de cette approche, et Vanoy insiste lourdement là-dessus, c'est que subordonner le verset 1, bah ça provoque un carambolage syntaxique avec le verset 2.
Parce que le verset 2 décrit la terre comme étant informe et vide.
C'est là que ça coince. Si le verset 1 dit « quand Dieu commença à créer », on doit transformer le verset 2 en une gigantesque parenthèse descriptive pour que la phrase atterrisse enfin au verset 3.
Oh là là, ça donnerait quoi à l'oral ?
Ça donne un truc du genre « quand Dieu commença à créer les cieux et la terre, or la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, alors Dieu dit que la lumière soit. »
C'est super lourd.
C'est d'une lourdeur extrême en hébreu, ouais. La structure du récit s'effondre sous le poids de la grammaire. C'est pourquoi la vaste majorité des exégètes maintient que la clause indépendante classique reste la seule lecture fluide et logiquement viable.
Ok, donc gardons la version classique, robuste et indépendante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final.
On est d'accord.
On pourrait croire que le débat s'arrête là, mais d'après les notes de l'analyse, admettre cette traduction ne résout absolument rien quant au rôle de cette phrase dans le chapitre.
Ah bah non, ce serait trop facile.
Mais oui, car il faut maintenant relier cette affirmation majestueuse au chaos aquatique du verset suivant. Et pour ça, il y a trois grandes théories qui s'affrontent, n'est-ce pas ?
C'est ça. La première approche, c'est de considérer Genèse 1.1 comme un simple résumé. Un gros titre, en fait. C'est une vision défendue notamment par la NIV Study Bible.
Un titre de journal, genre ?
Exactement. Dans cette optique, la phrase annonce simplement le sujet du chapitre. Voici comment Dieu a créé l'univers. Et le récit chronologique ne commencerait réellement qu'au verset 2, en posant le décor initial de la terre informe et vide. Et ensuite, l'action démarre au verset 3, avec la lumière.
Mais la faille logique saute aux yeux, là.
Laquelle ?
Bah, si le verset 1 est un résumé qui englobe toute la perfection de la création des six jours, c'est super déroutant de commencer l'histoire au verset 2 par une scène de désolation, de ténèbres et de vide. Le contraste narratif est beaucoup trop brutal.
C'est une critique très juste. Il y a cependant une exception technique qui sauve cette théorie du résumé.
Ah oui ?
Ouais. Si le verset 1 décrit une création ex nihilo.
C'est-à-dire une création littéralement à partir de rien.
Voilà. Le gros titre signifierait alors que Dieu a fait surgir la matière de l'inexistence au verset 1. Ensuite, au verset 2, on constate que cette matière était à l'état brut et chaotique. Et enfin, la mise en ordre a commencé au verset 3.
Ce qui nous mène inévitablement à la deuxième théorie. Parce que si on refuse l'idée du résumé et qu'on lit le verset 1 comme un acte de création parfait et achevé d'emblée, bah, il faut impérativement expliquer comment l'univers se retrouve en ruine au verset 2.
Et c'est là qu'intervient la fameuse « gap theory », la théorie de l'interstice.
Alors celle-là, elle est incroyable.
C'est de loin celle qui a généré le plus d'imagination théologique, on va pas se mentir. Elle postule que Genèse 1.1 décrit une première création terrestre d'une beauté et d'une perfection absolue.
Ok.
Puis, entre le point final du verset 1 et la majuscule du verset 2, bam, il se glisse un vide temporel, un gouffre chronologique indéterminé. Et durant ce laps de temps caché, un cataclysme cosmique dévaste l'univers.
C'est digne d'un film.
Conséquence linguistique, le verset 2 ne doit plus être traduit par « la terre était informe et vide », mais par « la terre est devenue informe et vide ». Tout le reste du chapitre devient alors le récit de la réhabilitation d'une planète ravagée.
C'est carrément le scénario archétypal de la science-fiction de terraformation, quoi. Une civilisation découvre une planète morte, détruite par une catastrophe antique, et déploie des technologies pour rétablir une atmosphère et la vie.
C'est une excellente comparaison, ouais.
Mais qu'est-ce qui aurait causé ce cataclysme originel, dans le cadre strictement biblique ?
Les défenseurs de cette théorie pointent souvent vers la chute de Satan. L'idée, c'est que la rébellion angélique a corrompu physiquement la création originale, forçant Dieu à la détruire pour la refaire.
Waouh !
Et linguistiquement, cette lecture repose sur une certaine flexibilité du verbe hébreu « haya » au verset 2. Il peut signifier un état statique, être, ou indiquer un changement d'état, devenir.
Au-delà de la grammaire, la source note que cette théorie de l'interstice a connu une popularité immense au XIXe et XXe siècle pour une raison très pragmatique, non ?
Absolument. Elle offrait une porte de sortie face aux découvertes de la géologie moderne.
Ah, pour caser les dinosaures, hein ?
C'est ça. En insérant un gouffre temporel inquantifiable entre les deux premiers versets, on pouvait y glisser des millions d'années, les fossiles, les aires glaciaires, tout en gardant une lecture littérale des 6 jours de reconstruction ultérieure.
Intellectuellement, c'est une pirouette très habile. On réconcilie le temps géologique profond et le texte antique en cachant des millions d'années dans l'espace blanc entre deux phrases.
C'est séduisant.
Mais est-ce que cette architecture tient debout lorsqu'on la soumet à l'analyse textuelle stricte ?
Bah, pas vraiment. L'ouvrage de Weston W. Fields, Unformed and Unfilled, démolit cette théorie avec une précision clinique.
Aïe, qu'est-ce qu'il dit ?
Déjà, grammaticalement, bien que « haya » puisse parfois signifier « devenir », la structure spécifique de la phrase en hébreu ici, un nom suivi du verbe, dicte presque toujours une description d'état. Donc, « était »,« pas » et « de l'nu ».
D'accord.
Et plus grave encore pour la théorie de l'interstice, les textes bibliques utilisés pour prouver cette guerre cosmique destructrice sont complètement sortis de leur contexte.
Tu parles des textes d'Isaïe ou d'Ézéchiel ?
Ouais. Isaïe 14 et Ézéchiel 28. Les défenseurs de la gap theory s'en servent pour étayer la chute de Satan. Sauf que l'analyse de Fields montre que ces passages prophétiques sont en réalité des diatribes politiques.
Politiques ?
Dirigées contre qui ?
Contre des monarques humains extrêmement arrogants.
Spécifiquement, les rois de Babylone et de Tyr. Ces rois se prenaient pour des dieux, et les prophètes utilisent un langage hyperbolique, mythologique, pour décrire leur chute vertigineuse de la gloire à la mort.
Ah, donc le texte ne parle pas du tout d'une entité angélique déchue avant Genèse 1 ?
Non. Tenter de déraciner ces poèmes politiques pour les greffer dans le vide temporel hypothétique de Genèse 1, ça relève d'une manipulation textuelle que l'exégèse rigoureuse ne peut pas soutenir.
Bon, du coup, si la théorie du gros titre force un peu le contraste narratif et que la très séduisante gap theory s'effondre sous son propre poids contextuel, il doit bien exister une troisième voie, non ?
Heureusement, oui.
Une voie pour relier l'acte créateur du verset 1 à l'état chaotique du verset 2, sans avoir besoin d'inventer une apocalypse invisible.
Cette troisième voie, c'est la théorie de la création de la matière. Elle a été largement théorisée par l'érudit néerlandais G.C.H.A. Alders.
Et comment il approche le problème, lui ?
Pour comprendre, il faut saisir le concept de mérisme en linguistique. Un mérisme, ça consiste à utiliser deux extrêmes pour désigner une totalité. L'expression « les cieux et la terre » au verset 1 ne désigne pas le ciel bleu et les paysages verts qu'on connaît.
Ça désigne quoi, alors ?
C'est un concept global qui désigne l'essence brute, les matériaux fondamentaux de l'univers. Le verset 1 relate donc la création de cette substance élémentaire.
L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un sculpteur qui commande un immense bloc d'argile.
Oh, très bien.
L'argile arrive dans l'atelier, elle existe, elle est réelle, c'est la matière première. Mais elle est complètement amorphe. Le verset 1 serait la livraison de l'argile.
Et le verset 2 décrirait l'état du bloc.
Exactement. Très logiquement, le bloc est informe, il attend juste que l'artiste commence à structurer l'œuvre avec la lumière, la séparation des eaux, etc.
La comparaison avec le bloc d'argile illustre parfaitement la fluidité de cette théorie. Vanoy admet dans ses notes qu'il y a une difficulté inhérente à lire l'expression « les cieux et la terre » de façon conceptuelle plutôt que littérale.
Oui, on a envie d'y voir des lieux finis.
Mais cette approche offre l'enchaînement logique le plus robuste. Elle explique le passage naturel de l'origine de la matière au verset 1 à son état brut et non organisé au verset 2 jusqu'à sa structuration méthodique à partir du verset 3. Tout se tient sans aucune distorsion du temps.
Ce qui ressort vraiment de cette exploration minutieuse, je trouve, c'est l'incroyable densité de ces textes anciens. On a souvent tendance, dans notre époque un peu saturée de technologie, à regarder la littérature de l'Antiquité avec une certaine condescendance.
Oui, en y voyant des simples fables primitives, écrites par des peuples effrayés par l'orage ou la nuit.
C'est ça. Or, l'analyse des concepts de Genèse 1 démontre exactement le contraire.
C'est une littérature d'une sophistication philosophique redoutable. Le fait même d'isoler le concept du divin de la matière physique, ça a jeté des bases conceptuelles énormes. Des millénaires plus tard, c'est ça qui a permis l'émergence de l'investigation scientifique de la nature.
Bah oui, parce que si la nature n'est pas un dieu, elle peut être étudiée, mesurée, comprise.
Exactement. Et d'ailleurs, débattre de la syntaxe de Bereshit ou de la signification exacte du verbe « haya », ça rappelle à quel point la mécanique des langues mortes continue d'influencer la pensée humaine.
Totalement. La traduction façonne littéralement les réalités conceptuelles des civilisations qui s'y appuient.
C'est le pouvoir des mots.
Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
On vient de voir comment l'hésitation entre un verbe statique « être » et un verbe de mouvement « devenir » couplé à la pression des découvertes géologiques, a suffi pour générer la Gap Theory, une vision où la planète entière est détruite dans une guerre cosmique puis terraformée. Quand même.
Ouais, tout un univers bâti sur une ambiguïté.
Voilà. Et si une telle mythologie a pu s'engouffrer dans l'espace laissé par l'ambiguïté d'un seul mot hébreu, combien de nos propres convictions contemporaines reposent, à notre insu, sur des certitudes linguistiques tout aussi fragiles ? L'histoire de nos idées est souvent à la merci d'un traducteur qui, un jour, a dû choisir entre placer un point final ou une virgule. De quoi lire n'importe quel texte avec un peu plus d'humilité, non ?